Je préfère être honnête d'entrée de jeu. Je n'ai jamais été fan de pèlerinage. Pour moi, les pèlerins, c'était des gens avec des problèmes de luxe et des vêtements multifonctions. Les gens qui pouvaient se permettre un chapeau de soleil vissé sur la tête, de partir plusieurs semaines en randonnée à travers l'Espagne pour aller à la rencontre d'eux-mêmes, n'avaient, c'est le moins qu'on puisse dire, pas de problème aussi banal que la gestion d'un cabinet d'avocats à concilier avec la charge d'un enfant. Pour pouvoir faire un pèlerinage contre sa détresse psychique, il fallait d'abord avoir du temps et des moyens. Dans la première partie de ma vie, l'idée que la famille et le travail pouvaient être non pas un frein, mais une bonne raison de partir en pèlerinage, ne m'était jamais venue à l'esprit. Ce jour-là, en sonnant à la porte de mon thérapeute Joschka Breitner, je ne soupçonnais pas encore que, passé 45 ans, cela pourrait changer. Il fut un temps où je considérais que les thérapeutes étaient à peu près aussi utiles que les professeurs de golf qui corrigent des déficiences plutôt secondaires au quotidien. Mais c'était avant de connaître Joschka Breitner. Parce que Katharina, la mère de ma fille et ma femme à l'époque, m'avait forcé à me détendre. Joschka Breitner me familiarisa avec la pleine conscience et, ô miracle, grâce à celle-ci, je pus résoudre les trois types de difficultés qui se posent dans la vie d'un homme. Celles que j'avais déjà depuis longtemps, celles dont j'ignorais l'existence et celles qui surgissaient quotidiennement dans ma vie. Monsieur Breitner et la pleine conscience avaient changé ma vie. Désormais, j'allais chez mon thérapeute comme la plupart des hommes vont chez le coiffeur, pas pour innover, mais pour garder la même tête. J'éprouvais une certaine satisfaction intérieure, ou le sentiment d'avoir, pour l'essentiel, trouvé ma place. Je menais une vie réglée. J'avais une relation merveilleuse avec ma fille de 5 ans, et mes rapports avec mon ex-femme étaient détendus. J'entretenais même une relation cordiale avec le nouveau compagnon de celle-ci. En outre, j'avais des revenus plus que suffisants sans que cela me coûtât trop d'efforts. Et jusqu'à cette séance de coaching, je ne m'étais jamais demandé si les mots « réglés »,« merveilleuse », »,« détendu », »,« cordial » et « sans trop d'efforts » suffisaient à résumer ce que je devais attendre de la vie. Mes entretiens thérapeutiques avec M. Breitner une fois par mois étaient une sorte de détartrage de l'âme. Si on laisse passer trop de temps entre deux détartrages, on finit par ressentir des aspérités désagréables sur les dents de devant. Ces aspérités doivent alors être éliminées. Pour mon âme, le processus était similaire. À ceci près qu'entre deux séances de coaching, l'élimination en pleine conscience des aspérités de mon âme avait coupé court à la vie de 8 personnes, ce dont Joschka Breitner ignorait tout. Les morts qui m'accompagnaient étaient en quelque sorte la conséquence logique de ces enseignements, pas leur cause. Les séances de thérapie ne s'étaient pas seulement muées en une agréable routine. Elles servaient aussi à prévenir la calcification de mon âme. Ainsi, personne n'avait été menacé de mort ces derniers temps. Or, je n'imaginais pas qu'elle pourrait conduire un jour à la découverte d'une dent complètement creuse. J'arrivais régulièrement et en toute décontraction chez Joschka Breitner avec 10 minutes d'avance sur mon rendez-vous de 17h30, pour constater à chaque fois qu'il n'y avait plus de place de parking pour mon Land Rover Defender, légèrement surdimensionné dans le quartier Art Nouveau où se trouvait son cabinet. Généralement, je faisais 2 fois le tour du pâté de maison en suivant les sens uniques, en vain, pour finalement me garer sur le parking d'un supermarché 3 rues plus loin. À chaque fois, je faisais ensuite les 800 mètres jusqu'au cabinet en courant, échangeant mon avance confortable contre la crispation d'une ponctualité manquée de peu. Immanquablement, j'appuyais alors à pile 17h31 sur la sonnette de Joschka Breitner. À la seule différence que ce jour-là, contrairement aux 12 mois précédents, je ne sonnais qu'à 17h32, après être venu en taxi. En arrivant dans le quartier, le chauffeur avait tourné dans une voie à sens unique une rue trop tôt. Mon niveau de décontraction n'était pas au top, j'avais encore un peu la gueule de bois à cause de la veille. Une indisposition qui me rappelait douloureusement mon désir d'oublier la soirée d'hier. Cette fois encore, Monsieur Breitner m'ouvrit la porte avec le calme que je lui connaissais. Il répondit à mon léger manque de ponctualité par un silence affable et me précéda dans son bureau. Je n'ai jamais réussi à savoir s'il ne possédait qu'un jeu de vêtements ou s'il avait le même jean délavé, la même chemise en coton et le même chandail en d'innombrables exemplaires. Je ne me rappelle pas l'avoir vu ne serait-ce qu'une seule fois porter autre chose. Mais jamais cette tenue, invariablement unique, n'avait paru même un tantinet défraîchi. L'apparente insignifiance qu'il semblait attribuer à sa garde-robe n'en soulignait que plus l'importance. Tandis que M. Breitner nous servait du thé vert, je m'assis, comme d'habitude, dans un des fauteuils en tube chromé tendu de velours côtelé, tout en promenant pour la énième fois mon regard sur le dos des livres posés sur son étagère. Comme toujours, je me demandais pourquoi le roman d'Ernest Hemingway, « Le soleil se lève aussi », avait été glissé entre l'art de la guerre de Sun Tzu et les pensées pour moi-même de Marc Aurèle. Je m'apprêtais à laisser cette question s'évanouir sans réponse dans ma tête, sachant qu'à cet instant précis, Joschka Breitner m'interromprait pour me demander comment j'allais. Mais il n'en fut rien. Sa question usuelle, « Heureux de vous revoir, comment vous sentez-vous ?» resta en suspens, créant un blanc assourdissant dans le tapis sonore qui sous-tendait habituellement mes visites. Décontenancé par cet accroc dans notre routine, je posai mon regard sur lui. Il se tenait devant moi avec deux tasses de thé et me souriait d'un air interrogateur. « Pourquoi deux minutes ?» voulut-il savoir en me tendant ma tasse. « Pardon ?» J'ignorais où il voulait en venir. « Eh bien, depuis plus d'un an, vous arrivez toujours à nos séances avec une minute de retard. Aujourd'hui, ce sont deux minutes. Pourquoi ?» Monsieur Breitner m'avait beaucoup appris, surtout à prendre conscience de mes désirs. En cet instant, je n'en avais qu'un seul, ne pas devoir réfléchir à cette question idiote. Le fait d'être interrogé avec une précision toute prussienne sur l'augmentation infime de mon manque de ponctualité ne fit qu'amplifier mes embardées chancelantes autour de mon centre intérieur. Mais qu'est-ce que ça change ? C'est à vous de me le dire. Sur une journée, deux minutes, c'est pas grand-chose. Comparé à une minute, c'est une différence de 100%. Ce n'est pas rien. Alors, pourquoi avez-vous deux fois plus de retard que d'ordinaire aujourd'hui ? À cause de la soirée de la veille, que j'aurais préféré oublier, en fait. À cause de l'essieu cassé de mon Land Rover. À cause de la chanson des deux prostituées. À cause des deux hommes d'affaires chinois aux urgences. À cause de toutes ces choses qui me contrariaient beaucoup trop pour que je veuille m'en souvenir. Mais qui ne me pesait pas assez pour que je veuille en parler à mon thérapeute. À cause d'événements qui feraient donc quand même l'objet de cet entretien. Je tournais encore un peu autour du pot. Le chauffeur de taxi a pris la mauvaise rue. Monsieur Breitner me regarda comme s'il était une de ces pancartes en carton que des personnes en quête de points de repère installent sur le site de tragédie pour attirer l'attention. Sur ces pancartes, on peut lire pourquoi ? Je supposais que la question portait sur la raison pour laquelle j'avais pris un taxi. Parce que je ne peux pas prendre ma voiture pour le moment. De nouveau ce regard de pancarte demandant « Pourquoi ?» Parce que j'avais un petit dîner avec des clients hier. Ça s'est fini un peu plus tard que prévu. Précisai-je avec un sourire embarrassé en imitant sans plus de mots le geste consistant à se renverser d'un coup un verre de vodka glacé dans le gosier. Joschka Breitner connaissait ma profession. J'étais avocat. Mais il ne savait pas comment je l'exerçais concrètement. Pour l'essentiel, cela impliquait du trafic de drogue, de la prostitution et des armes. J'ajoute à ma décharge que je m'occupais par ailleurs aussi d'une maternelle.